Vous écoutez un QDM de poche, un mini-épisode sur un objet culturel à la sauce Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel. Accompagné de l'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kélis.
C'est parti! Cette semaine, dans ce mini-épisode, nous parlons d'art avec l'exposition Le Modèle Noir qui se tient au musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet. Alors, quel regard nous renvoie ces œuvres? L'exposition remplit-elle son cahier des charges? On l'a visitée avec Kémis. Salut, bienvenue.
Hello, hello.
Alors, pour situer un peu cette exposition, d'abord, elle concerne la période qui va de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle en France, c'est-à-dire à peu près de l'abolition de l'esclavage jusqu'aux avant-gardes en passant par ce qu'on a appelé la nouvelle peinture. Et elle interroge donc la place des personnes noires, des modèles noirs dans l'iconographie. Alors, qui sont ces gens? Des anonymes, des esclaves affranchis, des domestiques, voire des modèles professionnels comme Joseph, qui a longtemps posé aux Beaux-Arts, notamment pour le tableau Le Radeau de la Méduse, mais aussi des personnalités politiques que l'on va retrouver comme l'Antillais Toussaint Louverture. Alors, parmi les commissaires d'exposition, il faut tout de même citer Cécile Debray, Stéphane Guégan, Denise Murel et Isolde Pludermacher. Et pour rappeler un petit peu le contexte dans lequel a lieu cette exposition, il faut savoir qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de décoloniser les arts. Et sur ce terrain-là, le musée d'Orsay arrive un peu tard, voire se rattrape carrément sur la savonnette. On se souvient que l'institution avait déjà organisé une exposition sur le thème de la prostitution en 2015, donc sur les questions de voyeurisme, qui contenait, à mon sens, pas mal d'angles morts. Et le musée est aujourd'hui perçu, en tout cas à l'étranger, comme étant assez conservateur, à la fois dans son accrochage et dans sa politique avec les publics. Et donc, on peut peut-être voir dans cette exposition une tentative de s'inscrire dans une certaine réparation. Kémis, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est vrai que le musée d'Orsay a été au cœur de plusieurs polémiques, notamment celle qui avait eu lieu donc il y a quelques années concernant notamment l'accueil déplorable des personnels du musée envers des élèves qui venaient principalement de quartiers populaires et il me semble de Stein du 93. Donc effectivement ils sont un petit peu, je suis un peu critique, donc j'attendais de voir justement cette exposition dans cet œil un peu critique. Ouais.
Alors effectivement, ça fait plutôt mauvaise impression. Toi, quelles ont été tes impressions générales avant qu'on entre dans les avantages et les inconvénients de ce parcours?
Alors de prime abord, c'est vrai que, je vais pas te mentir, ça m'a fait un peu bizarre, mais pour une fois de manière un petit peu positive, de voir toutes ces œuvres d'art qui sont tournées vers les corps noirs. Et surtout que pour une fois, ces œuvres elles soient ancrées dans un contexte francophone ou français. Ce que j'ai beaucoup aussi noté et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que il y a une femme noire qui est directrice d'études à l'EHESS, donc c'est l'école des hautes études en sciences sociales, qui s'appelle Anne Lafont et qui a en fait elle a participé au comité scientifique qui a donc œuvré à la réalisation de cette exposition. Donc Anne Lafont, elle a notamment écrit L'art et la race, donc l'Africain tout contre l'œil des Lumières. Donc c'est un livre d'histoire de l'art et donc qui interroge en fait la représentation des corps noirs à travers l'histoire dans la peinture et dans les arts en général. Ça m'a fait vraiment plaisir en fait de voir comment ils ont impliqué des gens qui proviennent des mondes afro-descendants, africains, tout ce qu'on veut. Il y avait aussi, par exemple, l'historien Pap Ndiaye, donc un historien assez connu sur la question, les questions noires, entre guillemets. Et voilà, il y a eu aussi l'artiste Abdelmalik qui a participé. Enfin, j'ai trouvé ça cool. Pour une fois...
C'est le minimum syndical,
ouais,
disons.
C'est vrai que c'est le minimum syndical, c'est vrai. Après, surtout, c'est le minimum syndical parce qu'on est en 2019, quoi. Enfin... On arrive un peu tard quand même. Enfin, je suis un peu voilà, je suis un peu je me dis que bon, c'est pas trop tôt, tu vois. Et puis je me dis aussi le point vraiment positif, c'est que ce type d'exposition, ce type d'événement, il déchire le mythe d'une France où la race n'existe pas, où en gros, on est dans une représentation colorblind, donc aveugle aux couleurs. Et donc toutes ces initiatives qui visent justement à rappeler en fait la question de la race dans un contexte français sont encouragés et doivent être encouragés pour moi. Et toi, t'en as pensé quoi?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et moi, par ailleurs, j'ai découvert des œuvres que j'ai trouvées très belles, comme les bustes de Charles Cordier ou les portraits des Américains Thomas Eakins et John Philip Simpson, qui ont l'air d'avoir été peints hier, en fait, tellement le trait est moderne. J'ai aussi découvert des périodes que je ne connaissais pas, comme celle de Matisse à Harlem, avec sa petite touche d'appropriation culturelle.
Pourquoi changer ?
Et évidemment, je me suis questionnée sur ma place de sujet regardant et de spectatrice blanche dans l'exposition, ce qui, je pense, était le but. Alors, pour parler un peu des avantages de cette exposition, qui est une réussite à plusieurs égards, d'abord, le texte qui accompagne le parcours est assez clair, il me semble. Il dit que des personnes ont été oubliées par l'histoire de l'art ou remisées dans les marges, et qu'on va ainsi leur redonner une visibilité. Donc, le modèle dont nous parlons va passer ainsi d'objet à sujet par un processus d'individuation qui va consister déjà à nommer ces personnes. Donc, en fait, le musée a tout simplement changé les noms de plusieurs tableaux et va donner une biographie à ces modèles. Donc, on apprend que dans le tableau L'Olympia de Manet, qui est un tableau central dans cet accrochage, la modèle noire s'appelle Laure. On apprend aussi que la muse de Baudelaire, même si j'aime pas beaucoup ce terme, s'appelle Jeanne Duval. Voilà, on en apprend un peu plus sur ces personnes.
Effectivement, ce qui est intéressant lors de cette expo, c'est qu'on leur donne aussi une capacité d'agir. Typiquement, le premier tableau, donc celui de Marie-Guillaumine Benoît, montre une relation de complicité avec le modèle Madeleine. Et on se souvient du modèle qui a fait un petit caméo dans le clip Ape Shit de Beyoncé et Jay-Z qui a pris place au Louvre. Je ne sais pas si c'est un point positif, mais en tout cas, c'est intéressant. On comprend vraiment que le noir, en tout cas le corps noir, au 19e siècle, avait une fonction décorative dans la peinture. Il sert notamment à accompagner, à mettre en valeur la femme blanche. On utilise notamment un page noir pour rehausser la femme blanche qui est poudrée. On voit aussi des jeux de lumière entre clair et obscur. Et en fait, à travers ça, on comprend que il y a une hiérarchie raciale, la même hiérarchie raciale en fait qui a été construite dans la société se retrouve sur l'étoile. Ça, c'est l'universitaire Elvin Zabounian qui l'explique très bien dans son livre La figure du noir dans l'art occidental.
Oui, effectivement, et l'exposition, en plus de tout ça, met aussi en lumière des peintres qui ont été abolitionnistes, comme Géricault, met en lumière la descendance métissée de certains peintres qu'on ignorait jusqu'à présent, comme Chassériau, montre aussi des caricatures racistes d'Alexandre Dumas. Donc tout ça, c'est plutôt un bon apport.
Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que l'exposition, elle est pédagogique, en fait, sur l'histoire. Et aussi, évidemment, sur la condition des personnes peintes. Donc là, on va au-delà même de tout ce qui est côté esthétique, même si ça s'y mêle, évidemment. Là, on parle aussi, bien sûr, de politique. Donc, ça concerne les courants de pensée racistes, ça concerne l'orientalisme, l'exotisation des corps, le mythe du bon sauvage. On voit aussi, pour ceux qui l'ignoraient peut-être, les icônes Banania. Et je pense que dans une période où justement il y a tous ces débats sur le blackface, est-ce que c'est pertinent d'en parler en France, etc. Est-ce que c'est une importation américaine ? C'est intéressant en fait de voir que la France a aussi son histoire de représentation, notamment raciste, des corps noirs.
Alors, on a aussi quelques réserves sur l'exposition, puisque la question dans ce genre d'accrochage, c'est toujours de savoir si celui-ci dénonce ou cautionne le racisme. Est-ce que ces parcours renforcent ou déconstruisent les stéréotypes ? Et à mon sens, l'exposition fait un peu des deux à la fois. Et notamment, le principal problème pour moi, c'est qu'il n'y a que des modèles noirs peints par des blancs. Donc, pourquoi est-ce que des peintres racisés n'ont pas été inclus dans cette exposition ? Peut-être à part James Van Der Zee, le photographe américain. C'est un mystère.
Je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est que le musée d'Orsay, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, essaye de faire un espèce de mea culpa dans un contexte où on parle beaucoup de décolonisation des arts, du savoir, etc. Mais justement, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un groupe, enfin marrant sans être marrant, c'est qu'il y a en fait il y a une association d'artistes, de comédiens, voilà, de personnalités qui viennent du monde de l'art, qui ont créé un groupe qui s'appelle Décoloniser les arts. Et je pense que ça aurait été très intéressant en fait ne serait-ce que d'organiser des visites par des personnes qui participaient à ce collectif, parce que justement, il y aurait eu une perspective critique sur les œuvres, sur les auteurs, sur les autrices, quitte même à faire des conférences. Enfin, je pense que ça manquait vraiment beaucoup, quoi.
Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on aurait aimé peut-être voir davantage de peintures de Paul Gauguin, qui est tout de même un artiste qui a validé le fantasme de l'homme blanc séduisant des femmes indigènes. Et je trouve que ce sont des tableaux qui manquent un peu.
Moi, après, je vais parler, je parle pas au nom des personnes noires, mais en tout cas, je parle en tant que femme noire. Je trouve que je suis obligée de le dire, en fait. Je suis très mal à l'aise par certaines œuvres, parce que justement, en fait, on se prend la violence de l'histoire. On se prend la violence de la hiérarchie raciale en pleine tête. Surtout quand, justement, il y a certaines peintures qui mettent explicitement en scène des positions subalternes et insultantes. Et bah en fait, je peux pas m'empêcher de sortir énervée, quoi. Enfin, j'étais énervée.
Oui, d'ailleurs, pas mal de professionnels des musées, en tout cas à l'étranger, ont été assez choqués par l'exposition et ont relevé qu'il s'agissait surtout d'un regard blanc sur les corps noirs et que donc ce white gaze n'était pas tellement interrogé, malheureusement.
Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal critiqué cette exposition, mais moi je me pose une question sur la pérennité en fait de ce type d'installation, entre guillemets, hein, installation au sens large, parce qu'après le 21 juillet, bah, où vont aller ces œuvres? Est-ce qu'on va retrouver ces œuvres dans des collections permanentes? Comment ça se passe? Moi je m'y connais pas, et je pense que même si, effectivement, moi je trouve ça violent, ça peut être un bon outil pédagogique, et je pense qu'en fait, ça devrait rester dans des endroits un peu, entre guillemets, centraux, quitte ensuite à la faire tourner. Mais je pense que le 21 juillet, c'est court, en fait, finalement. Mmh. Enfin, c'est facile de l'oublier. Et voilà, s'il y avait un centre, un centre d'études des mondes afrodescendants, par exemple, à Paris ou ailleurs. Mmh. Enfin, je pense que ça pourrait être intéressant, en fait, d'avoir ce type d'exposition.
Oui, et c'est vrai que moi, je me suis posé la question en la visitant, puisque une très grande partie, en tout cas quand j'y étais, du public était blanc, alors que les gardiens de salle sont plutôt des personnes noires, que des hommes prenaient en photo les tableaux de femmes noires
nues. Des hommes blancs,
Des hommes blancs, oui. Donc voilà, tout ça était assez méta et créait une sorte de malaise total. Et alors, qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour essayer de repenser autrement et de peut-être décloisonner les œuvres d'art?
Ben, je vais commencer par citer le travail d'un photographe qui est pour le coup un homme blanc, qui s'appelle Chris Buck, qui a fait un travail très intéressant en fait d'inverser les entre guillemets codes de la race. Je m'explique, il a pris des photos où par exemple on voyait une petite fille blanche face à plein de poupées noires dans un supermarché. Il a pris une photo où il y avait des femmes d'origine asiatique ou asiatique qui étaient en train de se faire manucurer les ongles par des femmes blondes, blanches. J'ai trouvé ça très intéressant comme travail. Il y a aussi, ça remonte un petit peu, mais j'aimerais bien que ça arrive en France. Il y a eu une exposition qui a eu lieu à la Tête Moderne à Londres il y a quelques années qui m'a vraiment marqué, qui s'appelait Soul of the Nation. Et elle a mis en lumière le travail d'artistes afro-américains, notamment dans le mouvement de Black is Beautiful, le mouvement des droits civiques des années 60, où justement, en fait, il y a beaucoup d'artistes, de photographes et de peintres qui ont dessiné la négritude d'une autre manière. Et je pense que, pour le coup, c'est le temps d'organiser la même chose en France avec des artistes caribéens, africains, voilà, des gens. Je pense qu'ils existent, en fait, il faut juste chercher, quoi.
Oui, surtout que la Tate Moderne consacre sa nouvelle extension, donc qu'elle a réalisée en 2016, aux artistes femmes, en tout cas pour la moitié de sa nouvelle galerie. Ce qu'on peut dire aussi, souligner, c'est que le musée des Beaux-Arts en Suède, à Stockholm, est aujourd'hui paritaire, et donc ça permet vraiment de découvrir des artistes femmes qui ont été oubliées ou mises de côté par l'histoire de la peinture. Et alors justement, pour en revenir au musée d'Orsay, celui-ci consacre très bientôt une exposition à la peintre Berthe Morisot, puisqu'il était temps effectivement de souligner qu'il y a eu aussi des femmes chez les impressionnistes et qu'elles n'étaient pas que des modèles. Voilà. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut, merci Kémis.
Ciao Clem.
Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, présentée par Clémentine Gallo.
Et qui est Miss ?
Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Charles de Silla, montage et mixage Laurie Galligani, coordination Laura Cuissard avec l'aide de Cassandra de Carvalho.